avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Chers auditeurs de Radio Lapourdi, bonjour. C'est parce que nous sommes en période d'élection, peut-être, que je souhaiterais vous parler aujourd'hui d'un essai qui est paru il y a quelques mois d'un auteur un peu atypique qui s'appelle Natacha Polony, connue comme directrice de l'hebdomadaire Marianne, un essai qui s'intitule « Sommes-nous encore en démocratie ?» « Sommes-nous encore en démocratie ?» C'est un titre qui peut paraître provocateur et, de fait, l'ouvrage se veut non pas un pamphlet, mais une œuvre susceptible de stimuler notre réflexion sur ce sujet très délicat et extrêmement important. L'auteur insistant sur le fait que la démocratie dite représentative telle que nous la connaissons est en crise. On a l'habitude d'ailleurs très souvent de distinguer, voire d'opposer la démocratie directe, qui peut s'exprimer par le référendum notamment, et la démocratie représentative, et l'auteur considère que cette distinction ou cette opposition est peut-être moins pertinente qu'elle ne l'était autrefois lorsqu'elle écrit, par exemple, « Ce n'est pas le tout de rejeter la démocratie directe en expliquant qu'elle est techniquement impossible, ce qui était vrai mais qui l'est de moins en moins à l'heure du numérique, ou qu'elle serait tyrannique sans jamais vraiment expliquer pourquoi, et l'on perçoit trop souvent derrière cet argument l'idée que la démocratie serait une chose bien trop sérieuse pour la laisser au peuple. » Et elle poursuit, encore faut-il admettre, que la démocratie représentative telle que nous la pratiquons dans les pays occidentaux est pour le moins grippée. Et c'est l'idée principale de son ouvrage qui part du principe et du constat, devrait-on dire, effectivement, qu'il y a une défiance croissante de la part des citoyens, d'une majorité sans doute de nos concitoyens, en tout cas en France, vis-à-vis de la démocratie, ce qui se traduit entre autres, au moins pour certains scrutins, par une abstention massive, voire une abstention record. Cette défiance est décrite de manière très opportune par Natacha Polony. Elle explique qu'un nombre croissant de citoyens, je la cite, est inscrit dans un mouvement de désaffiliation vis-à-vis de la démocratie, désormais convaincus que voter ne sert à rien et que leur voix ne compte pas. Et c'est bien effectivement le problème, je pense, que l'on peut observer au moment des élections quand on observe les taux d'abstention. Alors sans doute cette défiance et cette abstention a-t-elle des causes plus ou moins juridiques, politiques, on va dire institutionnelles, qui tiennent par exemple et en particulier au mode de scrutin majoritaire tel que nous le connaissons dans notre pays, puisque Natacha Polony a tout à fait raison d'observer, je cite, « Le spectacle de l'Italie, de l'Espagne ou de la Belgique devenu ingouvernable incite certains à se réjouir du système majoritaire français, mais c'est proprement une folie. Il faudrait se réjouir, dit-elle, que 14,5% des inscrits, c'est-à-dire le score de La République en marche au premier tour des législatives de 2017, permettent d'obtenir 350 députés. » Quand 57% des électeurs, en général les plus pauvres, s'abstiennent de voter aux élections législatives, c'est-à-dire pour désigner ceux qui écriront la loi, c'est qu'il y a un problème. Et elle poursuit aussi de la manière suivante en expliquant que Emmanuel Macron a bien été élu en mai 2017, mais nul ne peut prétendre dans ces conditions que les Français ont approuvé son programme. Lui est parfaitement légitime. Son programme ne l'est pas aux yeux d'une grande partie des citoyens, pour la raison qu'on a indiquée, à laquelle s'ajoute d'ailleurs le fait que beaucoup n'ont pas voté pour Macron et son programme, mais pour faire barrage à l'autre candidat qui était donc à l'époque Marine Le Pen, comme ce sera probablement le cas encore en 2022. Mais cette désaffection, cette défiance, a une cause plus profonde ou plus fondamentale, selon Natacha Polony. C'est ce qu'elle appelle la confiscation du pouvoir par une classe sociale. Et son analyse, sans doute discutable, controversée, me paraît intéressante, donc je cite quelques extraits. Lorsqu'elle écrit, par exemple, « Il n'y a jamais eu autant de représentants des catégories sociales les plus élevées, notamment parmi les députés, jamais aussi peu d'ouvriers et de paysans ou de petits employés. Ces élus, ces parlementaires, incarnent une élite sociologique et matérielle, une caste, une classe sociale. » Pas plus cultivés que la moyenne des citoyens, mais plus aisés et largement éloignés des aspirations d'une grande part de la population. Un peu plus loin, dans le même esprit, elle explique qu'il existe une forme de sécession des classes dominantes qui ne se sentent absolument plus les mêmes intérêts que les populations des pays auxquels ils sont censés appartenir. Elle élargit au-delà de notre pays, la France, aux démocraties européennes ou occidentales. On peut encore citer d'autres passages qui vont dans le même sens et qui, je pense, sont un constat relativement objectif, quoique peut-être un peu provocateur. Elle a donc, soutient Natacha Polony, cette défiance des causes, des racines, finalement idéologiques, ce qu'elle appelle l'idéologie dominante, le néolibéralisme en particulier, qui s'est imposé depuis les années 70 en France et dans la plupart de ce qu'on appelle les démocraties occidentales. Comment définir cette idéologie de manière relativement simple ? Le néolibéralisme, écrit-elle, désigne cette idéologie qui s'impose à la fin des années 70 et qui théorise la dérégulation absolue de l'économie et la constitution d'un marché unique par l'imposition du libre-échange total et la division mondiale du travail. Et à juste titre, elle écrit par ailleurs, pour le dire simplement, que les classes dominantes ont intérêt, dit-elle, à maintenir ce système de dérégulation et de division mondiale du travail qui les enrichit largement. En d'autres termes, son analyse considère que le concept de lutte des classes n'est pas totalement dépassé, bien qu'il se présente de manière différente de ce qu'il en était au XIXe ou au début du XXe siècle, mais elle considère qu'il y a des intérêts divergents entre le peuple ou la majorité du peuple et les élites, ou plus exactement peut-être on devrait dire la classe dominante, ces intérêts divergents étant sans doute à l'origine de la fracture entre les citoyens et une partie de leurs élus, ou les citoyens et les parlementaires, ce qu'on a d'ailleurs pu observer à propos, dit-elle, du référendum de 2005 sur le projet de constitution européenne et le traité de Lisbonne. Et c'est effectivement intéressant de voir le décalage entre le peuple et ses représentants. Elle écrit en particulier « L'épisode le plus effarant fut en 2008 la ratification par 90% des députés du traité de Lisbonne, qui était le copier-coller du traité constitutionnel refusé par 55% des Français le 29 mai 2005. » Elle revient à plusieurs reprises sur ce sujet. Le décalage entre les 55% de citoyens votant non au référendum sur le traité constitutionnel de 2005 et les 90% de députés votant pour le traité de Lisbonne, c'est la différence entre les « gens raisonnables » entre guillemets, qui estiment qu'il n'y a pas d'autre politique possible, et les citoyens qui se souviennent que la démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple. On voit effectivement donc que ce décalage entre citoyens et leurs élus n'est pas un mythe, mais que concrètement il se traduit de cette façon. Ce système économique libéral, néolibéral, qui s'est imposé depuis les années 70 et qui ne se discute pas, on nous explique très souvent qu'il n'y a pas d'alternative possible, est tel que droite et gauche mènent peu ou prou, sur le plan économique j'entends, la même politique. C'est très certainement d'ailleurs parce que une certaine gauche a un peu mauvaise conscience de s'être ralliée à un certain néolibéralisme économique qu'elle se lance parfois dans une sorte de surenchère sur les sujets dits sociétaux, avortement, euthanasie, mariage pour tous, gender, procréation médicalement assistée sans père, voire pourquoi pas gestation pour autrui, afin de donner ou de se donner peut-être l'illusion de ne pas s'être renié et d'être progressiste. Et d'ailleurs, si l'on en croit Natacha Polony, le macronisme, si on doit le définir, n'a finalement été en 2017 qu'un moyen, hein, peut-être, de sauver le système entre libéraux de droite et libéraux de gauche qui aujourd'hui effectivement se retrouvent autour d'une idéologie commune, au point d'ailleurs que les personnes qui refusent de se soumettre au système ou à cette idéologie néolibérale sont très souvent diabolisées ou marginalisées, écrit Natacha Polony, vilipendée comme étant réactionnaire, populiste, complotiste, souverainiste, etc. On peut bien entendu discuter tel ou tel aspect du livre de Natacha Polony. On peut difficilement contester, en revanche, qu'elle pose des questions tout à fait pertinentes. La conclusion du livre, d'ailleurs, est intéressante, car après avoir rappelé que la démocratie, dit-elle, la démocratie telle que nous la concevons, est fondée sur l'existence d'une communauté politique formée par des citoyens autonomes et responsables doués de libre arbitre. Donc après avoir fait ce rappel, elle insiste sur le fait, d'abord, qu'une démocratie authentique n'est possible que si elle repose sur un certain nombre de citoyens, l'existence de citoyens vraiment autonomes et responsables, des citoyens doués de libre arbitre, mais aussi sur un peuple, une communauté consciente de partager un destin commun, autrement dit, une nation qui a cette conscience d'un destin, d'une histoire, d'un passé, d'un présent et d'un futur commun. Et la conclusion de Natacha Polony, également, je pense, mérite d'être méditée. Je cite la dernière phrase, ou quasiment la dernière phrase de son livre, petit livre qui se lit très rapidement, mais qui, une fois de plus, est très intéressant pour nourrir notre réflexion. « Croire en l'homme, dit-elle, c'est avant tout mettre en place un système qui lui permet d'exercer sa liberté. »
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, 05 59 59 67 92.